Il est peu de souverains qui aient marqué leur règne d'une telle activité tumultueuse et pourtant efficace. Il en est peu qui aient suscité de leur vivant même tant de jugements contradictoires. Il en est peu dont la postérité se soit plus occupée. L'historien Roger Portal à propos du tsar Pierre le Grand.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Pierre le Grand a été un des souverains les plus importants de l'histoire de la Russie impériale. En effet, il l'a sans doute fait entrer dans la période moderne. Si l'on se place au début du XVIIe siècle, la Russie, que l'on appelait d'ailleurs plutôt à l'époque la Moscovie, n'est encore presque rien d'un État européen. Et effectivement, pour les élites européennes, la Moscovie fait plutôt partie d'une lointaine Asie plus ou moins connue que véritablement du continent européen. Mais pour être juste, les premières transformations s'étaient produites avant même le règne de Pierre. En effet, sous le règne d'Alexis, entre 1645 et 1676, fils de Michel Romanov, eh bien, il y avait eu des efforts de modernisation, d'urbanisation et même de reconquête territoriale, puisque le tsar Alexis avait réussi à reprendre aux Polonais une partie de la Russie blanche avec les villes de Smolensk et une partie de l'Ukraine avec la ville de Kiev. D'autre part, le souverain avait réussi à réduire à l'obéissance une grande partie de la noblesse, c'est-à-dire les boyards, et avait créé une forte armée permanente, les streltsy. D'autre part, il avait établi définitivement le servage en Russie. Ainsi, il y avait bien eu des réformes, des modernisations, même si l'on peut discuter du terme, évidemment, à propos du servage, mais beaucoup restait à faire. En fait, les idées occidentales ont commencé à pénétrer petit à petit en Russie dans les années 1670-1680. On voit à ce moment-là des traductions d'ouvrages étrangers et on vit même le tsar oser aller à des représentations théâtrales. Mais à la mort du tsar Fédor en 1682, c'est donc son demi-frère Pierre, enfant d'un deuxième mariage d'Alexis, qui est proclamé tsar. Mais comme il n'a que 10 ans, c'est sa sœur Sophie qui devient régente. Laissé un peu à lui-même, Pierre, durant son enfance et le début de son adolescence, fréquenta les étrangers de Moscou et il y a d'ailleurs amitié avec un charpentier hollandais qui lui a appris à construire un bateau à voile. Au bout de quelques années, il s'est lassé tout de même de rester dans l'ombre de sa sœur et donc il a enlevé le pouvoir à Sophie et est resté seul maître de la Russie en 1689. Il avait 17 ans. À partir de ce moment-là, il va indéniablement marquer les esprits. D'abord, il marque les esprits par son physique, parce que Pierre le Grand est un colosse qui mesure un peu plus de 2 mètres, d'une force physique impressionnante, même remarquée par des sautes d'humeur assez bizarres, sujet à des colères terribles, par moments d'ailleurs à des accès de cruauté, mais c'est un être intelligent, curieux, qui se cultive beaucoup par lui-même et qui a compris que son état a besoin d'une modernité. Première modernité, elle sera militaire. Pierre commence par se donner une armée et une marine. Et il a eu la tentation, bien sûr, de s'en servir. Et d'abord contre les Turcs. Il entra en guerre contre les Turcs et s'empara de la ville d'Azov sur la mer Noire en 1696. Ce qui fait qu'il affirmait la présence russe en mer Noire. Puis, en 1697, il passa, assez incognito, plusieurs mois en Occident. Il visita la Hollande en 5 mois, puis l'Angleterre en 3 mois, s'intéressant tout particulièrement à la construction des navires. Il fut obligé de rentrer très vite à Moscou sans véritablement terminer son séjour occidental, parce que une grave révolte des Streltsy, cette armée permanente, l'avait obligé à rentrer pour réprimer celle-ci. La révolte était d'ailleurs terminée quand il est arrivé à nouveau à Moscou, et quelques centaines de révoltés furent torturés et exécutés. De son séjour occidental, le tsar avait gardé quelques repères. Ainsi, il estimait que les longues barbes des boyards russes étaient totalement hors de la période. Il leur ordonna de se raser la barbe, ce qui était considéré par cette noblesse comme sacrilège, de couper leurs longues manches, de porter un habit à l'occidental qu'il avait vu dans les rues de Londres. Il leur conseilla aussi également de fumer. Il osa modifier le calendrier. Il fit commencer ainsi l'année en janvier et non plus en septembre, comme la tradition russe le faisait. Et il fallait dater les événements non plus de la création du monde, mais de la naissance de Jésus-Christ. Les masses populaires, profondément attachées aux vieilles habitudes, eh bien, ont été effrayées par ces nouveautés, voyant parfois dans la personne du tsar l'antéchrist. Mais lui n'était guère soucieux de ces attitudes. Et quand il comprit d'ailleurs que l'Église orthodoxe pouvait être un élément de conservatisme, eh bien, il décida de reprendre les choses en main concernant l'Église. En effet, celle-ci avait un patriarche à sa tête. Lorsque celui-ci mourut en 1700, le tsar ne lui donna pas de successeur. En fait, il institua un saint synode qui était composé de 9 évêques qui étaient chargés de diriger le clergé orthodoxe. Mais prudent, il prit soin de s'y faire représenter par un fonctionnaire laïc, le procureur du Saint-Synode, qui était en fait le dirigeant principal de l'Église de Russie. Autre réforme également qu'il avait mis en place, c'est intégrer la noblesse au service de l'État. Désormais, ne purent être nobles que les fonctionnaires et les officiers. Mais tous ceux qui faisaient partie de l'administration et de l'armée furent donc une noblesse de service. Le tsar donna d'ailleurs des avantages considérables, mais on lui reprocha un peu sa brutalité à l'égard des petits, et puis finalement, il n'hésitait pas, c'est vrai, à tuer lui-même, si nécessaire, des personnes qui osaient résister trop à son sentiment de réforme. Enfin, ce qui est également à noter, c'est que lors d'un second séjour en Occident en 1717, Pierre avait vu les nouveautés commerciales et il avait été assez impressionné par l'œuvre de Colbert en France, ce qui fait que, à son retour, il avait décidé de favoriser les industriels et les commerçants. Il leur fournit une main-d'œuvre abondante, de serfs et même de condamnés de droit commun. Il leur alloua des subventions et parfois même les intégra à la noblesse. Il encouragea l'exploitation de mines d'or, de cuivre, de fer et fit creuser des canaux protégeant les foires de Moscou et d'Astrakhan. Enfin, dernier grand moment d'une réforme qui d'ailleurs touche plutôt à un grand projet d'urbanisme, c'est la création de Saint-Pétersbourg. En effet, en 1703, le tsar estime que Moscou, vieille capitale, n'est plus véritablement de son temps. Aussi ordonne-t-il, en bordure de la Baltique, de créer une nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, la ville de Pierre, qui compte assez rapidement jusqu'à 100 000 habitants à la fin du règne. Elle est devenue non seulement la nouvelle capitale de la Russie, mais également le grand port de commerce ouvert sur la Baltique puis sur la mer du Nord à la place d'Arkhangelsk. Ainsi, il avait véritablement œuvré pour une modernité de son empire. Sur le plan extérieur, l'Empire russe est désormais devenue une puissance qui compte. Nous avons déjà vu les succès remportés sur les Ottomans, mais c'est bien sûr la Grande Guerre contre Charles XII de Suède qui va être véritablement un élément capital dans l'affirmation de la puissance russe. Cette guerre se termine, après un début difficile contre les troupes suédoises, par un grand succès en 1709, la bataille de Poltava. Ainsi, tant au sud sur la mer Noire qu'au nord sur la mer Baltique, eh bien, Pierre le Grand avait réussi à affirmer l'Empire russe. Un dernier mot tout de même. Ces réformes que beaucoup d'historiens estiment avoir été très nombreuses, peut-être trop nombreuses pour une société qui était finalement extrêmement conservatrice, a rencontré des résistances. Et parmi les éléments de résistance, il y a peut-être eu le fils du tsar lui-même, le tsarévitch Alexis. Celui-ci a été sans doute influencé par un cercle d'ecclésiastiques qui lui avait été donné comme professeur, par des nobles qui voulaient résister aux initiatives du tsar. Et finalement, il a payé de sa vie le fait d'avoir été le représentant plus ou moins contraint de la résistance au tsar. Il a été arrêté, jugé, condamné à mort, et finalement, le tsarévitch Alexis meurt des suites de la torture qui lui fut infligée dans sa prison en 1718. Pierre le Grand avait modernisé la Russie, mais souvent au prix aussi du sang.